Portrait religieux de Simone Veil. Première partie. Quand je lis le catéchisme du Concile de Trente, il me semble n'avoir rien de commun avec la religion qui est exposée. Quand je lis le Nouveau Testament, les mystiques, la liturgie, quand je vois célébrer la messe, je sens avec une espèce de certitude que cette foi est la mienne, ou plus exactement, serait la mienne, sans la distance mise entre elle et moi par mon imperfection. Cela fait une situation spirituelle pénible. Je voudrais la rendre, non pas moins pénible, mais plus claire. N'importe quelle peine est acceptable dans la clarté. Je vais vous énumérer un certain nombre des pensées qui habitent en moi depuis des années, du moins quelques-unes, et font obstacle entre moi et l'Église. Je ne vous demande pas d'en discuter le fond. Je serai heureuse d'une telle discussion, mais plus tard, en second lieu. Je vous demande une réponse certaine, sans formule telle que « je crois que », etc., sur la comptabilité ou la non-comptabilité de chacune de ces opinions avec l'appartenance à l'Église. S'il y a incompatibilité, je voudrais que vous me disiez nettement « je refuserai le baptême ou l'absolution à quiconque me dirait d'adhérer aux opinions contenues dans les rubriques numéro telle, telle et telle. » Je ne demande pas une réponse rapide, il n'y a pas d'urgence. Je demande seulement une réponse catégorique. Je m'excuse de vous causer ce dérangement, mais je ne vois pas comment je peux l'éviter. La réflexion sur ces problèmes est loin d'être un jeu pour moi. Non seulement c'est d'une importance plus que vitale, du fait que le salut éternel y est engagé, mais encore c'est d'une importance qui dépasse de loin, à mes yeux, celle de mon salut. Un problème de vie et de mort est un jeu en comparaison. Parmi les opinions qui vont suivre, certaines sont douteuses pour moi, mais au cas où il serait de foi stricte de les estimer fausses, elles sont pour moi un obstacle aussi sérieux que les autres, car j'ai la conviction ferme qu'elles sont douteuses, c'est-à-dire qu'il n'est pas légitime de les nier catégoriquement. Certaines de ces opinions, notamment celles qui concernent les mystères, les écritures non judéo-chrétiennes, Melchisédek, etc., n'ont jamais été condamnées, bien qu'elles aient très probablement été soutenues dans les premiers siècles. Cela fait que je me demande si elles n'ont pas été secrètement acceptées. Quoi qu'il en soit, si aujourd'hui elles étaient publiquement exposées par moi ou par d'autres et condamnées par l'Église, je ne les abandonnerai pas, à moins qu'on me persuade qu'elles sont fausses. Je pense à ces choses depuis des années avec toute l'intensité d'amour et d'attention dont je dispose. Cette intensité est misérablement faible, à cause de mon imperfection qui est très grande. Mais elle va toujours en croissant, il me semble. À mesure qu'elle croît, les liens qui m'attachent à la foi catholique deviennent de plus en plus forts, de plus en plus profondément enracinés dans le cœur et l'intelligence. Mais en même temps, les pensées qui m'éloignent de l'Église gagnent elles aussi en force et en clarté. Si ces pensées sont vraiment incompatibles avec l'appartenance à l'Église, il n'y a donc guère d'espoir que je puisse jamais avoir part au sacrement. S'il en est ainsi, je ne vois pas comment je peux éviter de conclure que j'ai pour vocation d'être chrétienne hors de l'Église. La possibilité d'une telle vocation impliquerait que l'Église n'est pas catholique, en fait, comme elle l'est de nom, et qu'elle doit un jour le devenir si elle est destinée à remplir sa mission. Les opinions qui suivent ont pour moi des degrés divers de probabilité ou de certitude, mais toutes sont accompagnées dans mon esprit d'un point d'interrogation. Je ne les exprimerai à l'indicatif qu'à cause de la pauvreté du langage. J'aurais besoin que la conjugaison contienne un mode supplémentaire. Dans le domaine des choses saintes, je n'affirme rien catégoriquement. Mais celles de mes opinions, qui sont conformes à l'enseignement de l'Église, sont aussi accompagnées dans mon esprit du même point d'interrogation. Je considère une certaine suspension du jugement à l'égard de toutes les pensées, quelles qu'elles soient, sans exception, comme constituant la vertu d'humilité dans le domaine de l'intelligence. Voici la liste. Premièrement, si on prend un moment de l'histoire antérieure au Christ et suffisamment éloigné de lui, par exemple éloignée de 5 siècles, et qu'on fasse abstraction de la suite, à ce moment Israël a moins de part à Dieu et aux vérités divines que plusieurs des peuples environnants, Inde, Égypte, Grèce, Chine. Car la vérité essentielle concernant Dieu, c'est qu'il est bon. Croire que Dieu peut ordonner aux hommes des actes atroces d'injustice et de cruauté, c'est la plus grande erreur qu'on puisse commettre à son égard. Zeus, dans l'Iliade, n'ordonne aucune cruauté. Les Grecs croyaient que Zeus, suppliant, habite dans tout malheureux qui implore la pitié. Yahvé est le dieu des armées. L'histoire des Hébreux montre qu'il ne s'agit pas seulement des étoiles, mais aussi des guerriers d'Israël. Or, Hérodote énumère une grande quantité de peuples helléniques et asiates, parmi lesquels un seul avait un Zeus des armées. Ce blasphème était inconnu de tous les autres. Le Livre des Morts, égyptien, vieux d'au moins 3000 ans, sans doute bien davantage, est imprégné de charité évangélique. Le mort dit à Osiris, « Seigneur de la vérité, je t'apporte la vérité. J'ai détruit le mal pour toi. Je n'ai tué personne. Je n'ai fait pleurer personne. Je n'ai laissé personne souffrir de la faim. Je n'ai jamais été cause qu'un maître fasse du mal à son esclave. Je n'ai causé de peur à aucun homme. Je n'ai jamais rendu ma voix hautaine. Je ne me suis jamais rendu sourd à des paroles justes et vraies. Je n'ai pas mis mon nom en avant pour les honneurs. Je n'ai pas repoussé Dieu dans ses manifestations. » Les Hébreux, qui ont été 4 siècles au contact de la civilisation égyptienne, ont refusé d'adopter cet esprit de douceur. Ils voulaient la puissance. Tous les textes antérieurs à l'exil sont entachés de cette erreur fondamentale sur Dieu, je crois. Excepte le livre de Job, dont le héros n'est pas juif, le Cantique des Cantiques, mais est-il antérieur à l'exil, et certains psaumes de David, mais l'attribution est-elle certaine? D'autre part, le premier personnage parfaitement pur qui figure dans l'histoire juive est Daniel, qui a été initié à la sagesse chaldéenne. La vie de tous les autres, à commencer par Abraham, est souillée de choses atroces. Abraham commence par prostituer sa femme. Cela donnerait à croire qu'Israël a appris la vérité la plus essentielle concernant Dieu, à savoir que Dieu est bon, avant d'être puissant, de traditions étrangères, chaldéennes, perses ou grecques, et à la faveur de l'exil. Deuxièmement, ce que nous nommons idolâtrie est dans une large mesure une fiction du fanatisme juif. Tous les peuples de tous les temps ont toujours été monothéistes. Si des Hébreux de la bonne époque ressuscitaient, et si on leur donnait des armes, ils nous extermineraient tous, hommes, femmes et enfants, pour crime d'idolâtrie. Ils nous reprocheraient d'adorer Baal et Astarté, prenant le Christ pour Baal et la Vierge pour Astarté. Réciproquement, Baal et Astarté étaient peut-être des figures du Christ et de la Vierge. On a raison d'alléguer contre certains de ces cultes les débauches qui les accompagnaient. Mais je crois beaucoup plus rarement qu'on ne le pense aujourd'hui. Mais les cruautés liées au culte de Yahvé, les exterminations ordonnées par lui, sont des souillures au moins aussi atroces. La cruauté est un crime encore plus affreux que la luxure. La luxure se satisfait d'ailleurs aussi bien dans le meurtre que dans l'union charnelle. Les sentiments des prétendus païens pour leur statue étaient très probablement les mêmes que ceux inspirés aujourd'hui par les crucifix et les statues de la Vierge et des saints, avec les mêmes déviations chez les gens spirituellement et intellectuellement médiocres. N'attribue-t-on pas couramment telle vertu surnaturelle à tel statut déterminé de la Vierge? Si même il leur arrivait de croire la divinité totalement présente dans de la pierre ou du bois, ils avaient peut-être parfois raison. Ne croyons-nous pas Dieu présent dans du pain et du vin? Il y avait peut-être présence réelle de Dieu dans des statues exécutées et consacrées selon certains rites. La véritable idolâtrie est la convoitise, en grec dans le texte. Et la nation juive, dans sa soif de bien charnel, en était coupable dans les moments mêmes où elle adorait son Dieu. Les Hébreux ont eu pour idole non du métal ou du bois, mais une race, une nation, chose tout aussi terrestre. Leur religion est dans son essence inséparable de cette idolâtrie, à cause de la notion de peuple élu. Troisièmement, les cérémonies des mystères d'Éleusis et d'Osiris étaient regardées comme des sacrements au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Et peut-être était-ce de vrais sacrements ayant la même vertu que le baptême ou l'Eucharistie, tirant cette vertu du même rapport à la passion du Christ. La passion était à venir. Aujourd'hui, elle est passée. Le passé et l'avenir sont symétriques. La chronologie ne peut pas avoir un rôle déterminant dans un rapport entre Dieu et l'homme, un rapport dont un terme est éternel. Si la rédemption, avec les signes et les moyens sensibles qui lui correspondent, n'avait pas été présente sur terre depuis l'origine, on ne pourrait pas pardonner à Dieu, s'il est permis d'employer ces mots sans blasphème, le malheur de tant d'innocents déracinés, asservis, torturés et mis à mort au cours des siècles antérieurs à l'ère chrétienne. Le Christ est présent sur cette terre, à moins que les hommes ne le chassent, partout où il y a crime et malheur. Sans les effets surnaturels de cette présence, comment les innocents écrasés par le malheur éviteraient-ils de tomber dans le crime de maudire Dieu et par suite dans la damnation? D'ailleurs, saint Jean parle de l'agneau qui a été égorgé depuis la fondation du monde. La preuve que le contenu du christianisme existait avant le Christ, c'est qu'il n'y a pas eu depuis de changement très considérable dans le comportement des hommes. Quatrièmement, il y a eu, peut-être, dans divers peuples, Inde, Égypte, Chine, Grèce, des écritures sacrées révélées au même titre que les écritures judéo-chrétiennes. Certains des textes qui subsistent aujourd'hui en sont peut-être ou des fragments ou des échos. Cinquièmement, les passages de l'Écriture, Genèse, Psaume, Saint Paul, concernant Melchisédek, prouvent que dès l'aube d'Israël, il existait hors d'Israël un service de Dieu, une connaissance de Dieu, située sur le plan même du christianisme et infiniment supérieure à tout ce qui ait jamais été possédé par Israël. Rien n'interdit la supposition d'un lien entre Melchisédek et les mystères antiques. Il y a affinité entre le pain et Déméter, le vin et Dionysos. Melchisédek est apparemment, d'après la Genèse, un roi de Canaan. Dès lors, probablement, la corruption et l'impiété des villes de Canaan, où ne dataient que des siècles, au moment des massacres, où étaient les inventions calomnieuses des Hébreux contre leurs victimes. Le passage de saint Paul sur Melchisédek, rapproché de la parole du Christ, « Abraham a vu mon jour », pourrait même indiquer que Melchisédek était déjà une incarnation du Verbe. En tout cas, il n'est pas certain que le Verbe n'ait pas eu des incarnations antérieures à Jésus et qu'Osiris en Égypte, Krishna en Inde, n'ait pas été de ce nombre. Septièmement, si Osiris n'est pas un homme ayant vécu sur terre, tout en étant Dieu, de la même manière que le Christ, alors du moins l'histoire d'Osiris est une prophétie infiniment plus claire, plus complète et plus proche de la vérité que tout ce qu'on nomme de ce nom dans l'Ancien Testament. De même pour d'autres dieux morts et ressuscités. L'extrême importance actuelle de ce problème vient de ce qu'il devient urgent de remédier au divorce qui existe depuis 20 siècles et va toujours s'aggravant entre la civilisation profane et la spiritualité dans les pays chrétiens. Notre civilisation ne doit rien à Israël, et fort peu de choses au christianisme. Elle doit presque tout à l'antiquité pré-chrétienne. Germains, druides, Rome, Grèce, Égéo-Crétois, Phéniciens, Égyptiens, Babyloniens. S'il y a cloison étanche entre cette antiquité et le christianisme, il y a la même cloison entre notre vie profane et notre vie spirituelle. Pour que le christianisme s'incarne vraiment, pour que l'inspiration chrétienne imprègne la vie tout entière, il faut reconnaître au préalable qu'historiquement, notre civilisation profane procède d'une inspiration religieuse qui, bien que chronologiquement pré-chrétienne, était chrétienne en son essence. La sagesse de Dieu doit être regardée comme la source unique de toute lumière ici-bas, même les lumières si faibles qui éclairent les choses de ce monde. Et de même pour Prométhée. L'histoire de Prométhée, c'est l'histoire même du Christ projeté dans l'éternel. Il n'y manque que la localisation dans le temps et l'espace. La mythologie grecque est pleine de prophéties. De même, les récits du folklore européen à ce qu'on nomme les contes de fées. Beaucoup de noms de divinités grecques sont probablement en réalité plusieurs noms désignant une seule personne divine, à savoir le Verbe. Je pense que c'est le cas pour Dionysos, Apollon, Artemis, Aphrodite céleste, Prométhée, l'amour, Proserpine et plusieurs autres. Je crois aussi que Hestia, Athéna et peut-être Héphaïstos sont des noms du Saint-Esprit. Hestia est le feu central. Athéna est sortie de la tête de Zeus après que celui-ci eut mangé son épouse, la sagesse qui était enceinte. Elle procède donc de Dieu et de sa sagesse. Elle a pour attribut l'olivier, et l'huile, dans les sacrements chrétiens, a une affinité avec le Saint-Esprit. On commande couramment certains actes, certaines paroles du Christ en disant « Il fallait que les prophéties fussent accomplies ». Il s'agit de prophéties hébraïques. Mais d'autres actes, d'autres paroles, pourraient être commentés de même par rapport aux prophéties non hébraïques. Le Christ a commencé sa vie publique en changeant l'eau en vin. Il l'a terminée en transformant le vin en sang. Il a ainsi marqué son affinité avec Dionysos. Aussi, par la parole, « Je suis la vraie vigne ». La parole, si le grain ne meurt, exprime son affinité avec les divinités mortes et ressuscitées qui avaient la végétation pour image, comme Attis et Proserpine. La maternité de la Vierge a des rapports mystérieux avec une parole du Timée de Platon concernant une certaine essence, mère de toutes choses et toujours intacte. Toutes les déesses mères de l'Antiquité, comme Déméter, Isis, aidaient des figures de la Vierge. La comparaison si insistante de la croix avec un arbre, de la crucifixion avec la pendaison, doit avoir rapport à des mythologies aujourd'hui disparues. Si le poème scandinave « La rune d'Odin » est antérieur à toute contamination chrétienne, ce qui est invérifiable, il contient aussi une prophétie très frappante. Je sais que j'ai pendu à un arbre balancé par le vent 9 nuits entières, blessé d'une lance, offert à Odin, moi-même à moi-même, à cet arbre dont nul ne sait de quelle racine il sort. Nul ne m'a donné du pain, ni une corne pour y boire. J'ai regardé en bas, je me suis appliqué aux runes, en pleurant je les ai apprises. Puis je suis descendu de là. Première Edda. Le terme « agneau de Dieu » a sans doute rapport à des traditions qui ont peut-être des liens avec ce qu'on nomme aujourd'hui le totétisme. L'histoire de Zeus Amon, dans Hérodote, Zeus égorgeant un bélier pour apparaître à celui qui le supplie de se laisser voir recouvert de sa toison, rapproché de la parole de saint Jean, à l'agneau égorgé depuis la constitution du monde, jette là-dessus une vive lumière. Le premier sacrifice qui a plu à Dieu, celui d'Abel, rappelé dans le canon de la messe comme une figure de celui du Christ, était un sacrifice animal. Il en est de même pour le second, celui de Noé, qui a sauvé définitivement l'humanité de la colère de Dieu et a provoqué un pacte de Dieu avec les hommes. Ce sont là les effets mêmes de la passion du Christ. Il y a un rapport très mystérieux entre les deux. On a dû penser, dans des temps très anciens, qu'il y a présence réelle de Dieu dans les animaux qu'on tue pour les manger, que Dieu descend en eux pour s'offrir comme nourriture aux hommes. Cette pensée faisait de la nourriture animale une communion, alors qu'autrement elle est un crime, à moins d'une philosophie plus ou moins cartésienne. Peut-être qu'à Thèbes, en Égypte, il y avait présence réelle de Dieu dans le bélier rituellement sacrifié comme aujourd'hui dans l'hostie consacrée. Cela vaut la peine de remarquer qu'au moment où le Christ a été crucifié, le soleil était dans la constellation du bélier. Platon, dans le Timée, décrit la constitution astronomique de l'univers comme une sorte de crucifixion de l'âme du monde, le point de croisement étant le point équinoxial, c'est-à-dire la constellation du bélier. Plusieurs textes, Épinomis, Timée, Banquet, Philolaos, Proclus, indiquent que la construction géométrique de la moyenne proportionnelle entre un nombre et l'unité, centre de la géométrie grecque, était le symbole de la médiation divine entre Dieu et l'homme. Or, un grand nombre de paroles du Christ, rapportées par les évangiles, surtout saint Jean, ont avec une insistance très marquée, qui ne peut être due qu'à une intention, la forme algébrique de la moyenne proportionnelle. Exemple. Comme mon père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. etc. Un même rapport unit le Père au Christ, le Christ aux disciples. Le Christ est moyenne proportionnelle entre Dieu et les saints. Le mot même de médiation l'indique. J'en conclus que comme le Christ s'est reconnu dans le Messie des psaumes, dans le juste souffrant d'Isaïe, dans le serpent d'airain de la Genèse, de même, il s'est reconnu dans la moyenne proportionnelle de la géométrie grecque, laquelle devient dès lors la plus éclatante des prophéties. Ennius, dans un écrit pythagoricien, dit « On appelle la lune Proserpine parce que, comme un serpent, elle est tournée tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite. » Tous les dieux médiateurs, assimilables au Verbe, sont des dieux lunaires, porteurs de cornes, de lyres ou d'arcs, qui évoquent le croissant. Osiris, Artémis, Apollon, Hermès, Dionysos, Zagreus, l'amour. Prométhée fait exception, mais dans Esquille, Io lui fait pendant, condamnée au vagabondage perpétuel comme lui à la crucifixion. Et elle est cornue. Remarquez qu'avant d'être crucifié, le Christ était un vagabond, et Platon dépeint l'amour comme un vagabond misérable. Si le soleil est l'image du Père, la lune, reflet parfait de la splendeur solaire, mais reflet qu'on peut contempler et qui souffre la diminution et la disparition, est l'image du Fils. La lumière est alors celle de l'esprit. Héraclite avait une trinité qu'on devine seulement à travers les fragments qui nous restent de lui, mais qui apparaît clairement dans l'hymne à Zeus de Cléante, d'inspiration héraclitienne. Les personnes sont Zeus, le Logos et le feu divin ou foudre. Cléante dit à Zeus « Cet univers consent à la domination. » Icone, Cratétaille. Telle est la vertu du serviteur que tu tiens sous tes invisibles mains, en feu à double tranchant, éternel vivant, la foudre. La foudre n'est pas un instrument de contrainte, mais un feu qui suscite le consentement et l'obéissance volontaire. C'est donc l'amour. Et cet amour est un serviteur, un éternel vivant, donc une personne. Les représentations si antiques de Zeus avec une hache à double tranchant, symbole de la foudre, dans les bas-reliefs crétois, avaient peut-être déjà cette signification. À rapprocher à double tranchant de la parole du Christ, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Le feu est constamment le symbole du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Les stoïciens, héritiers d'Héraclite, nommaient pneuma, le feu dont l'énergie soutient l'ordre du monde. Pneuma, c'est un souffle igné. La semence qui produit la génération charnelle était d'après eux, et d'après les pythagoriciens, un pneuma mêlé de liquide. La parole du Christ sur la nouvelle naissance, et par suite toute la symbolique du baptême, doit, pour être bien comprise, être rapprochée notamment des conceptions pythagoriciennes et stoïciennes de la génération. D'ailleurs, Justin, je crois, compare le baptême à la génération. Dès lors, la parole orphique, « Chevreau, tu es tombé dans du lait », doit peut-être être rapprochée du baptême. Les anciens regardaient le lait comme étant fait de la semence du Père. Le mot célèbre, « Le grand Pan est mort », voulait peut-être annoncer non la disparition de l'idolâtrie, mais la mort du Christ, le Christ étant le grand Pan, le grand tout. Platon, Cratyle, a dit que Pan est le Logos. Dans le Timée, il donne ce nom à l'âme du monde. Saint Jean, en se servant des mots Logos et Pneuma, indique la profonde affinité qui lie le stoïcisme grec, à distinguer de celui de Caton et de Brutus, au christianisme. Platon aussi connaissait clairement et a indiqué par allusion dans ses œuvres les dogmes de la Trinité, de la médiation, de l'incarnation, de la passion, et les notions de la grâce et du salut par l'amour. Il a connu la vérité essentielle, à savoir que Dieu est le bien. Il n'est la toute-puissance que par surcroît. En disant « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à souhaiter si déjà l'incendie a pris ?» Le Christ a indiqué son affinité avec Prométhée. Sa parole « Je suis la voix » est à rapprocher du Tao chinois, mot qui veut dire littéralement « la voix », et métaphoriquement, d'une part la méthode du salut, d'autre part le Dieu impersonnel qui est celui de la spiritualité chinoise, mais qui, bien qu'impersonnel, est le modèle des sages et agit continuellement. Sa parole, « Je suis la vérité », fait songer à Osiris, seigneur de la vérité. Quand il dit, dans une de ses paroles les plus importantes, « ceux qui font la vérité », il emploie une expression qui n'est pas grecque et qui, pour autant que je sache, n'est pas hébraïque, à vérifier. En revanche, elle est égyptienne. Ma'at veut dire à la fois justice et vérité. Cela est significatif. Ce n'est sans doute pas pour rien que la Sainte Famille est allée en Égypte. Le baptême, regardé comme une mort, est l'équivalent des initiations antiques. Saint Clément Romain emploie le mot « initié » pour baptiser. L'emploi du mot « mystère » pour désigner les sacrements indique la même équivalence. Le baptistère circulaire ressemble beaucoup au bassin de pierre où, d'après Hérodote, était célébré le mystère de la passion d'Osiris. L'un et l'autre, peut-être, évoquent la pleine mer. Cette pleine mer où flottait l'arche de Noé et celle d'Osiris, bois qui ont sauvé l'humanité avant celui de la croix. Quantité de récits de la mythologie et du folklore pourraient être traduits en vérité chrétienne sans rien forcer ni déformer, en y projetant au contraire une vive lumière. Et ces vérités aussi s'en trouveraient éclairées. Neuvièmement. Quand le Christ a dit « Enseignez toutes les nations et portez-leur la nouvelle », il ordonnait de porter une nouvelle, non une théologie. Lui-même, étant venu, disait-il, seulement pour les brebis d'Israël, à surajouter cette nouvelle à la religion d'Israël. Probablement, il voulait que chaque apôtre ajoutât de même la bonne nouvelle de la vie et de la mort du Christ à la religion du pays où il se trouverait. Mais l'ordre a été mal compris à cause du nationalisme indéracinable des Juifs. Il a fallu qu'ils imposent partout leur écriture. Si on trouve qu'il y a beaucoup de présomptions à supposer que les apôtres ont mal compris les ordres du Christ, je répondrai qu'il est tout à fait certain qu'il y a eu de leur part incompréhension sur certains points. Car après que le Christ ressuscité avait dit « Allez enseigner les nations, ou les gentils, et baptisez-les », après qu'il avait passé 40 jours avec les disciples à leur révéler sa doctrine, Pierre a eu néanmoins besoin d'une révélation spéciale et d'un rêve pour se décider à baptiser un païen. Il a dû invoquer ce rêve pour expliquer cet acte à son entourage. Et Paul a eu beaucoup de mal à éliminer la circoncision. D'autre part, il est écrit que l'arbre est jugé à ses fruits. L'Église a porté trop de fruits mauvais pour qu'il n'y ait pas eu une erreur au départ. L'Europe a été déracinée spirituellement, coupée de cette antiquité où tous les éléments de notre civilisation ont leur origine. Elle est allée déraciner les autres continents à partir du XVIe siècle. Le christianisme, après 20 siècles, n'est pratiquement pas sorti de la race blanche. Le catholicisme est encore bien plus restreint. L'Amérique est restée 16 siècles sans entendre parler du Christ. Pourtant, saint Paul avait dit, la nouvelle qui a été annoncée à toute la création. Et ces nations ont été détruites au milieu des plus horribles cruautés avant d'avoir eu le temps de le connaître. Le zèle des missionnaires n'a pas christianisé l'Afrique, l'Asie et l'Océanie, mais a amené ces territoires sous la domination froide, cruelle et destructrice de la race blanche qui a tout écrasé. Il serait singulier que la parole du Christ ait produit de tels effets si elle avait été bien comprise. Le Christ a dit « Enseignez les nations et baptisez ceux qui croient », c'est-à-dire ceux qui croient en lui. Il n'a jamais dit « Obligez-les à renier tout ce que leurs pères ont tenu pour sacré et adopter comme livre saint l'histoire d'un petit peuple inconnu d'eux ». On m'a affirmé que les hindous ne seraient nullement empêchés par leur propre tradition de recevoir le baptême si les missionnaires ne leur imposaient comme condition de renier Vishnu et Shiva. Si un hindou croit que Vishnu est le Verbe et Shiva le Saint-Esprit, et que le Verbe a été incarné dans le Krishna et dans Rama avant de l'être dans Jésus, de quel droit lui refuserait-on le baptême? De même, dans la querelle des jésuites et de la papauté sur les missions en Chine, ce sont les jésuites qui accomplissaient la parole du Christ. Dixièmement. L'action missionnaire, telle qu'elle est menée en fait, surtout depuis la condamnation de la politique des jésuites en Chine au XVIIe siècle, est mauvaise, sauf peut-être dans des cas particuliers. Les missionnaires, même martyrs, sont accompagnés de trop près par des canons et des bateaux de guerre pour être de vrais témoins de l'agneau. Je n'ai pas connaissance que l'Église ait jamais officiellement blâmé les actions punitives entreprises pour venger les missionnaires. Personnellement, jamais je ne donnerais fût-ce 20 sous à une œuvre de missionnaire. Je crois que pour un homme, le changement de religion est chose aussi dangereuse que pour un écrivain, le changement de langue. Cela peut réussir, mais aussi avoir des conséquences funestes. Onzièmement. La religion catholique contient explicitement des vérités que d'autres religions contiennent implicitement. Mais réciproquement, d'autres religions contiennent explicitement des vérités qui sont seulement implicites dans le christianisme. Le chrétien le mieux instruit peut encore apprendre beaucoup sur les choses divines dans d'autres traditions religieuses, bien que la lumière intérieure puisse aussi lui faire tout apercevoir à travers la sienne. Néanmoins, si ces autres traditions disparaissent de la surface de la terre, ce serait une perte irréparable. Les missionnaires n'en ont que trop fait disparaître déjà. Saint Jean de la Croix compare la foi à des reflets d'argent, la vérité étant l'or. Les diverses traditions religieuses authentiques sont des reflets différents de la même vérité, et peut-être également précieux. Mais on ne s'en rend pas compte parce que chacun vit une seule de ces traditions et aperçoit les autres du dehors. Or, comme les catholiques le répètent sans cesse avec raison aux incroyants, une religion ne se connaît que du dedans. C'est comme si deux hommes, placés dans deux chambres communicantes, voyant chacun le soleil par la fenêtre et le mur du voisin éclairé par les rayons, croyaient chacun qu'il est seul à voir le soleil et que le voisin en a seulement un reflet. L'Église reconnaît que la diversité des vocations est précieuse. Il faut étendre cette pensée aux vocations situées hors de l'Église, car il y en a. Douzièmement. Comme le disent les hindous, Dieu est à la fois personnel et impersonnel. Il est impersonnel en ce sens que sa manière infiniment mystérieuse d'être une personne diffère infiniment de la manière humaine. On ne peut saisir ce mystère qu'en employant à la fois, comme deux pinces, ces deux notions contraires, incompatibles ici-bas, compatibles seulement en Dieu. Il en est de même pour beaucoup de couples de contraires, comme les pythagoriciens l'avaient compris. On ne peut penser Dieu à la fois, non pas successivement comme trois et un, chose à quoi peu de catholiques parviennent, qu'en le pensant à la fois comme personnel et impersonnel. Autrement, on se représente tantôt une seule personne divine, tantôt trois dieux. Beaucoup de chrétiens confondent cette oscillation avec la vraie foi. Des saints d'une très haute spiritualité, comme saint Jean de la Croix, on saisit simultanément et avec une force égale l'aspect personnel et l'aspect impersonnel de Dieu. Des âmes moins avancées portent leur attention et leur foi surtout ou exclusivement sur l'un de ces deux aspects. Ainsi, la petite sainte Thérèse de Lisieux ne se représentait qu'un Dieu personnel. Comme en Occident le mot Dieu, dans son sens usuel, désigne une personne, des hommes dont l'attention, la foi et l'amour portent presque exclusivement sur l'aspect impersonnel de Dieu, peuvent se croire et se dire athées, bien que l'amour surnaturel habite dans leur âme. Ceux-là sont sûrement sauvés. Ils se reconnaissent à leur attitude à l'égard des choses d'ici-bas. Tous ceux qui possèdent à l'état pur l'amour du prochain et l'acceptation de l'ordre du monde, y compris le malheur, tout cela, même s'ils vivent et meurent en apparence athées, sont sûrement sauvés. Ceux qui possèdent parfaitement ces deux vertus, même s'ils vivent et meurent athées, sont des saints. Quand on rencontre de tels hommes, il est inutile de vouloir les convertir. Ils sont tout convertis, quoique non visiblement. Ils ont été engendrés à nouveau à partir de l'eau et de l'esprit, même s'ils n'ont jamais été baptisés. Ils ont mangé le pain de vie, même s'ils n'ont jamais communié. Treizièmement. La charité et la foi, quoique distinctes, sont inséparables. Les deux formes de la charité le sont plus encore. Quiconque est capable d'un mouvement de compassion pure envers un malheureux, chose d'ailleurs très rare, possède, peut-être implicitement, mais toujours réellement, l'amour de Dieu et la foi. Le Christ ne sauve pas tous ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur », mais il sauve tous ceux qui, d'un cœur pur, donnent un morceau de pain à un affamé, sans penser à lui le moins du monde. Ceux-là, quand il les remercie, répondent « Quand donc, Seigneur, t'avons-nous nourri ?» Donc, À l'affirmation de saint Thomas que celui qui refuse son adhésion à un seul article de foi n'a la foi à aucun degré, est fausse, à moins qu'on ne puisse établir que les hérétiques n'ont jamais eu la charité du prochain. Mais ce serait difficile. Autant qu'on sache, les parfaits cathares, par exemple, la possédaient à un degré très rare, même parmi les saints. Si on prétendait que le diable produit chez les hérétiques l'apparence de telles vertus pour me séduire les âmes, on irait contre la parole « Vous connaîtrez l'arbre à son fruit ». On raisonnerait exactement comme ceux qui regardaient le Christ comme un démoniaque. Et on serait peut-être bien près de commettre le péché sans pardon, le blasphème contre l'esprit. De même, un athée, un infidèle, capable de compassion pure, sont aussi proches de Dieu qu'un chrétien, et par suite, le connaissent aussi bien, bien que leur connaissance s'exprime par d'autres paroles ou reste muette. Car Dieu est amour, et s'il rétribue ceux qui le cherchent, il donne la lumière à ceux qui l'approchent, surtout s'ils désirent la lumière. Quatorzièmement. Saint Jean a dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Donc, quiconque croit cela, même s'il n'adhère à rien d'autre de ce qu'affirme l'Église, a la vraie foi. Dès lors, saint Thomas a complètement tort. De plus, l'Église, en ajoutant à la Trinité, à l'Incarnation et à la Rédemption d'autres articles de foi, est allée contre le Nouveau Testament. Pour suivre saint Jean, elle n'aurait jamais dû excommunier que les docéistes, ceux qui nient l'incarnation. À la définition de la foi par le catéchisme du Concile de Trente, croyance ferme en tout ce qu'enseigne l'Église, est très loin de celle de saint Jean, pour qui la foi était purement et simplement la croyance en l'incarnation du Fils de Dieu dans la personne de Jésus. Tout se passe comme si avec le temps, on avait regardé non plus Jésus, mais l'Église comme étant Dieu incarné ici-bas. La métaphore du corps mystique sert de pont entre les deux conceptions. Mais il y a une petite différence, c'est que le Christ était parfait, au lieu que l'Église est souillée de quantité de crimes. La conception thomiste de la foi implique un totalitarisme aussi étouffant ou davantage que celui de Hitler. Car si l'esprit adhère complètement, non seulement à tout ce que l'Église a reconnu comme étant de foi stricte, mais encore à tout ce qu'elle reconnaîtra jamais comme tel, l'intelligence doit être bâillonnée et réduite à des tâches serviles. La métaphore de voile ou de reflet, appliquée par les mystiques à la foi, leur permet de sortir de cet étouffoir. Ils acceptent l'enseignement de l'Église, non pas comme étant la vérité, mais comme étant quelque chose derrière quoi on trouve la vérité. Cela est très loin de la foi définie par le catéchisme du Concile de Trente. Tout se passe comme si, sous la même dénomination de christianisme, et à l'intérieur de la même organisation sociale, il y avait deux religions distinctes, celle des mystiques et l'autre. Je crois que la première est la vraie, et que la confusion des deux a eu à la fois de grands avantages et de grands inconvénients. D'après la phrase de saint Jean, l'Église n'a jamais eu le droit d'excommunier quiconque croyait vraiment que le Christ était le Fils de Dieu, descendu ici-bas en chair. La définition de saint Paul est plus large encore. Croire que Dieu existe et rétribue ceux qui le cherchent. Cette conception non plus n'a rien de commun avec celle de saint Thomas et du Concile de Trente. Il y a même contradiction. Car comment oser affirmer que parmi les hérétiques, il ne s'en est jamais trouvé un qui cherche Dieu? Quinzièmement. Les Samaritains étaient à l'ancienne loi ce que les hérétiques sont à l'Église. Les parfaits cathares, entre autres, étaient à quantité de théologiens ce qu'est le Samaritain de la parabole aux prêtres et aux lévites. Dès lors, que penser de ceux qui en les ont laissés massacrer et ont encouragé Simon de Montfort? Cette parabole aurait dû apprendre à l'Église à ne jamais excommunier quiconque pratique l'amour du prochain. Seizièmement. Il n'y a pas, autant que je puisse voir, de véritable différence, sinon dans les modalités d'expression, entre la conception manichéenne et la conception chrétienne du rapport entre le bien et le mal. Dix-septièmement. La tradition manichéenne est une de celles où on peut être assuré de trouver de la vérité si l'on étudie avec assez de piété et d'attention. Dix-huitièmement. Noé étant une figure du Christ, voire Origène, un juste parfait, dont le sacrifice a plu à Dieu et sauvé l'humanité, en la personne de qui Dieu a fait alliance avec tous les hommes, son ivresse et sa nudité doivent probablement être entendues au sens mystique. En ce cas, les Hébreux auraient déformé l'histoire comme sémites et meurtriers des Canaan. Cham aurait eu part à la révélation de Noé. Sem et Japheth auraient refusé d'y avoir part. Un gnostique cité par Clément d'Alexandrie affirme que la théologie allégorique de Phérékides, maître de Pythagore, est empruntée aux prophéties de Cham. Phérékides était syrien. Il a dit « Zeus, au moment de créer, se transforma en amour. Ce Cham serait-il le fils de Noé ?» Ce qui le donne à penser, c'est la généalogie. Sont issus de Cham les Égyptiens, les Philistins, c'est-à-dire les Égéo-Crétois ou Pélages, très vraisemblablement, les Phéniciens, les Sumériens, les Cananéens, autrement dit, toute la civilisation méditerranéenne immédiatement antérieure aux temps historiques. Hérodote confirme par de nombreux indices, affirme que les Hellènes ont emprunté toutes leurs connaissances métaphysiques et religieuses à l'Égypte par l'intermédiaire des Phéniciens et des Pélages. Nous savons que les Babyloniens avaient emprunté leur tradition aux Sumériens, à qui remonte par suite la sagesse chaldéenne. De même, le druidisme de Gaulle est très probablement ibérique et non celtique, car d'après Diogène Laërce, certains Grecs voyaient en lui une des origines de la philosophie grecque, ce qui autrement serait incompatible avec l'arrivée tardive des Celtes en Gaule. Ézéchiel, dans le passage splendide où il compare l'Égypte à l'arbre de vie et tire au chérubin qui le garde, confirme tout à fait ce que nous apprend Hérodote. Il semble donc que les peuples issus de Cham, et d'abord l'Égypte, ont connu la vraie religion, la religion d'amour, où Dieu est victime sacrifiée en même temps que maître tout-puissant. Parmi les peuples issus de Sem ou de Japheth, les uns comme les Babyloniens, les Celtes, les Hellènes, ont reçu cette révélation des peuples issus de Cham après les avoir conquis et envahis. Les autres, Romains, Hébreux, l'ont refusé par orgueil et volonté de puissance nationale. Chez les Hébreux, il faut faire exception pour Daniel, Isaïe, l'auteur du livre de Job et quelques autres. Chez les Romains, pour Marc Aurèle, et en l'instance peut-être pour des hommes comme Plaute et Lucrèce. Le Christ est né dans un territoire appartenant à ces deux peuples rebelles, mais l'inspiration qui est au centre de la religion chrétienne est sœur de celle des Pélages, de l'Égypte, de Cham. Pourtant, Israël et Rome ont mis leur manque sur le christianisme. Israël en y faisant entrer l'Ancien Testament comme texte sacré. Rome en faisant du christianisme la religion officielle de l'Empire romain qui était quelque chose comme ce que rêve Hitler. Cette double souillure, presque originelle, explique toutes les souillures qui rendent l'histoire de l'Église si atroce au cours des siècles. Une chose aussi horrible que la crucifixion du Christ ne pouvait se produire que dans un lieu où le mal l'emportait de très loin sur le bien. Mais aussi, l'Église née et grandie dans un tel lieu devait être impure dès l'origine et le rester. 19. L'Église n'est parfaitement pure que sous un rapport, en tant que conservatrice des sacrements. Ce qui est parfait, ce n'est pas l'Église, c'est le corps et le sang du Christ sur les autels. 20. L'Église ne semble pas être infaillible, car en fait elle évolue. Au Moyen-Âge, la parole « hors de l'Église », pas de salut, était prise au sens littéral par le magistère général de l'Église. Du moins, les documents semblent bien l'indiquer. Et aujourd'hui, on la comprend au sens de l'Église invisible. Un concile déclare anathème « Quiconque ne croit pas que dans la parole du Christ, quiconque n'est pas engendré à nouveau à partir de l'eau et de l'esprit. » Le mot « eau » désigne la matière du baptême. À ce compte, tous les prêtres aujourd'hui sont anathèmes. Car si un homme qui n'a ni eu ni désiré le baptême peut être sauvé, comme on l'admet généralement aujourd'hui, il a dû renaître de l'eau et de l'esprit en un certain sens nécessairement symbolique. On prend donc le mot « eau » dans un sens symbolique. Un concile déclare anathème quiconque se dit certain de la persévérance finale sans révélation particulière. Sainte Thérèse de Lisieux, peu avant sa mort, a dit être certaine de son salut, sans alléguer aucune révélation. Cela ne l'a pas empêché d'être canonisé. Si on demande à plusieurs prêtres si telle chose est de foi stricte, on obtient des réponses différentes et souvent dubitatives. Cela fait une situation impossible alors que l'édifice est tellement rigide que saint Thomas a pu émettre l'affirmation citée plus haut. Il y a là-dedans quelque chose qui ne va pas.